6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extramuros.
Bonjour et bienvenue dans cet Extramuros enregistré à Saint-Ségal où l'association Artisan est bien installée à la Ribine. C'est une rue des années 40 reconstituée avec son bistrot, sa mairie, une habitation, une échoppe et donc cette grange dans laquelle est installé notre studio. Le tout dans un hangar, celui de l'ancien musée des champs de Saint-Ségal, et il y a de la place pour les artisans d'art qui viennent régulièrement dans ce vaste espace à l'occasion d'événements comme ce week-end des 20 et 21 juillet 2019. Et la section historique de l'association Artisan peut reconstituer le passé. Donc ça va des années 30 aux années 1960. Là, c'est le cas aujourd'hui. On est plutôt sur les années 60 puisqu'on fête les 50 ans du premier homme sur la Lune. C'était un 21 juillet 1969. Armstrong posait le pied sur l'unique mais précieux satellite de la Terre. Pour fêter ça, les artisans historiques donc, se sont amusés à fabriquer un décor approprié. Et en particulier Rémi Toulard-Astel, qui est menuisier, qui a façonné une belle étagère fusée, qui s'est promenée un peu sur le territoire avant l'événement, inspiré de Tintin, je pense, hein, je ne pense pas me tromper. Il y a aussi un petit robot lunaire, il y a d'autres facéties encore. Mais Rémi est aussi depuis peu une voix de Radio Évasion et il va nous proposer cette saison une émission de science-fiction. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Tu as donc réalisé les chroniques de la Terre à la Lune sur Radio Évasion. Mmh. Tu es l'un des organisateurs de cet événement pour les 50 ans du premier humain sur la Lune. Et tu nous proposes donc pour l'an prochain une émission de science-fiction. Alors on peut dire que l'espace te fait rêver, je suppose.
Un peu, oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cet intérêt ?
Je ne sais pas. C'est, comment ça ? C'est quasiment inné. Depuis que j'ai conscience de ça, j'aime ça. C'est vraiment, c'est depuis tout petit, quoi. Et ça s'est vraiment développé, genre une dizaine d'années, il y avait une série de documentaires qui passaient en fin de soirée. Et là, ça a vraiment décollé, on va dire.
C'était quoi comme série de documentaires ?
C'est une série de documentaires qui passait sur la 3, je crois. C'est une série française, très bien faite. Et surtout avec une bande-son qui était vraiment spatiale, on va dire.
Et c'était pas Il était une fois l'espace, enfin, lequel on a grandi, par exemple.
Ah oui,
c'était vraiment un documentaire.
Totalement. Très technique, très poussé, depuis le début des balbutiements de l'exploration spatiale jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune.
Et c'était ce sujet scientifique qui t'intéressait, ou est-ce qu'il y avait d'autres sujets scientifiques ou techniques qui t'intéressaient ?
C'est plus l'approche technique de la chose qui m'intéresse.
Le comment, quoi. Comment on va sur la Lune,
voilà, comment ça marche, comment on fabrique des fusées, comment on les fait voler, comment ça se fait qu'elles tournent autour de la Terre.
Et malgré tout, tu n'es pas devenu ingénieur aéronautique ou...
Je suis une brêle en mathématiques.
Ah,
c'est...
ça c'est bien dommage.
Ouais.
Et comment s'est traduit alors cette passion, en premier, quand tu étais petit déjà ?
Je regardais à peu près tout ce qui se faisait comme documentaire à la télé. Même aux infos, tout ça, les séries documentaires. Et après, plus tard, il y a eu des publications, quelques revues que je lisais régulièrement sur l'espace et l'aviation.
C'est indissociable, les deux.
C'est indissociable. L'un mène vers l'autre, mais voilà.
L'un, lequel ? Lequel prime, en fait ?
Bah, c'est le plus proche de la Terre qui emmène vers l'extérieur, on va dire. D'abord, on marche, on vole, et après, on va dans l'espace.
Mais quand on réalise une fusée, on améliore les avions.
Oui.
Ensuite.
Les deux vont de pair. Parce que c'est des progrès techniques, mathématiques, informatiques, qui permettent de faire un échange de données dans les deux sens.
Tu es allé voir des expositions ? Tu es allé au planétarium de...
Plumeur-Boudou ? Oui.
Tout ça ?
À Plumeur-Boudou, je suis allé quelques fois, oui. Et chaque fois, je reste scotché, quoi. Ça m'impressionne, ça a un côté immense et à la fois quasiment toucher la chose. C'est vraiment fascinant.
Et ce n'est pas l'aspect exploration, parce que c'est ça quand même en général qui est le moteur de la conquête spatiale, c'est plutôt la découverte de nouveaux horizons. Ça, c'est moins...
C'est moins le côté scientifique, côté scientifique humain de la chose. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait du métal, des engrenages, des systèmes, des pompes, tout ça.
Oui, et donc tu es menuisier, donc ce n'est pas complètement déconnecté finalement, même si on ne peut pas fabriquer de fusées en bois.
Non.
À part des étagères.
On pourrait peut-être fabriquer des fusées en bois, je pense que ça a déjà été fait. Ouais.
Et ça, tu faisais aussi la fabrication de fusées artisanales, de lancement, quand tu étais petit ?
Non, parce que j'avais pas forcément. Dans la famille, on n'a pas forcément cette culture scientifique, cette culture de l'espace. Donc, je n'ai pas forcément les ponts d'accès à ce domaine. Mais oui, un de ces jours, je pense que je fabriquerai une fusée que je ferai voler. Pas une très grande fusée, mais voilà.
Dans ta cave. Alors, la science-fiction, qu'est-ce que tu apprécies dans ce genre littéraire ou cinématographique? Parce qu'en fait, c'est... Déjà, comment est-ce que tu définis la science-fiction? Parce qu'il y a plein de définitions de la science-fiction.
C'est très, très... Résumer la science-fiction à un genre, c'est un peu compliqué parce que ça permet d'approcher tous les domaines possibles et imaginables. Le policier, la comédie, le politique, c'est une voie d'accès pour d'autres domaines.
C'est quoi le point commun alors ?
C'est des univers souvent futuristes, mais pas toujours, très souvent dystopiques et malheureusement souvent violents.
Et avec un aspect scientifique quand même, parce que sinon ça ne s'appellerait pas science-fiction.
Oui. Il y a une extrapolation de la science moderne. On invente beaucoup de choses, à tort ou à raison après, ça dépend des époques. Et c'est ce qui permet un peu de sortir de l'ordinaire. Quoi.
Est-ce que tu mettrais ce qu'on appelle la fantaisie dans la science-fiction? Alors la fantaisie, ça sera plutôt... par exemple Game of Thrones pour ne pas la citer, des histoires de dragons plus. Est-ce que ça tu le mets dans la science-fiction ?
Pas du tout. C'est deux domaines pour moi complètement différents. La science-fiction, j'accroche. L'heroic fantasy, le fantastique, beaucoup moins. Il n'y a pas ce côté science entre guillemets, on va dire.
Mais dans le fantastique, il y a aussi des auteurs comme par exemple Stephen King où là on touche à l'horreur aussi un peu. Mmh. Est-ce que là tu le mets dans la science-fiction, un auteur comme Stephen King ?
Je connais pas de Stephen King, de ce que je connais, non, je ne mettrai pas dans la science-fiction.
Sur les références, alors, c'était quoi tes références déjà littéraires, au départ, quand tu as commencé à t'intéresser au sujet ?
Littéraire, ça a été, on va dire, la base, Isaac Asimov.
Est-ce que tu peux nous dire quoi, par exemple ?
Le premier livre que j'ai dû lire, ça devait être les Cavernes d'Acier.
Tu peux nous faire le résumé ?
C'est un roman policier, entre guillemets, sur base de science-fiction. C'est une époque futuriste, pas forcément très lointaine. Les humains ont pollué toute la surface de la Terre.
Et déjà un thème écologique.
Ah oui, tip-top. Et ils sont partis vivre sous Terre. Ils ont développé une agoraphobie totalement démesurée.
Agoraphobie, c'est la peur des grands espaces, des couverts, c'est ça ?
Oui. Et rien qu'à l'idée de sortir à la surface de la Terre, ils ne peuvent plus. Ils sont pris de panique. Et là, deux castes se sont développées, entre guillemets. Les gens qui ont peur de rester à l'air libre, qui restent sous Terre, et les castes un peu supérieures, qui, eux, ont passé ce cap et sont retournés au-dessus de la surface.
Et qu'est-ce qui te plaisait dans ce roman en particulier ? Qui t'a envie de donner, de continuer à lire Asimov ?
C'est le style Asimov, déjà, est particulier. Et en plus, l'ambiance qui en ressort, j'adore. Et en plus, ça permet d'ouvrir beaucoup l'imagination. Parce qu'un film, entre guillemets, le boulot est déjà mâché. On propose un décor, une lumière, une mise en scène. Quand on lit un livre, on se fait son film dans sa tête.
Et son rapport à la science et aux techniques, ça te paraissait satisfaisant ? Enfin, ça te paraissait crédible ? Parce que c'est évidemment pas réaliste, mais est-ce que ça te paraissait crédible ?
Ça paraissait moyennement crédible.
Mais que c'est vieux quand même.
C'est vieux. Enfin, c'est peut-être 50, ça aussi qui a fait que ça m'a plu. C'est de la vieille science-fiction, donc on parle de robots entièrement chromés, des pistolets laser avec une coupole grande comme un plat à tarte, donc des trucs totalement irréalistes. mais dans l'ambiance, ça paraissait crédible. C'est un tout.
Donc, tu as lu d'autres Asimov, je suppose.
J'ai
après,
dû quasiment tout lire.
Ah ouais, donc là, vraiment un fan d'Asimov. Et ouais. Alors, quels autres auteurs encore ? Parce qu'on est sur les auteurs, quoi. Allons-y, continuons.
Arthur C. Clarke.
Alors là, c'est 2001, ouais. L'Odyssée de l'espace. Oui. Et uniquement 2001
Non, il y avait aussi l'ascenseur spatial.
Qu'est-ce que c'est, ça, l'ascenseur spatial ?
Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un ingénieur qui fabrique un ascenseur spatial. Mais dans ce livre-là, l'auteur décrit toutes les étapes de fabrication.
Ça t'a plu, l'aspect technique.
L'aspect ingénierie, ça, j'ai accroché tout de suite. Savoir comment fabriquer. Ils partaient d'une station spatiale, ils faisaient descendre l'ascenseur vers la Terre. Après, ils arrivaient, ils lestaient un gros morceau de milliers de tonnes pour le faire tomber sur Terre, pour avoir l'ascenseur. C'était... Je m'imaginais la chose se faire, j'étais comme un fou, quoi.
Et c'était ça, pareil, ça fonctionnait en termes de crédibilité.
Oui, alors que maintenant, j'ai plus de connaissances dans le domaine de la dynamique spatiale, c'est totalement fou. C'est même pas possible. Quoi. Donc,
Et pour autant, les ascenseurs spatiaux font partie des projets, je crois, sur ouais. lesquels travaillent les ingénieurs et les chercheurs.
Ouais.
Ça pourrait être une façon d'aller dans l'espace, pas très loin, évidemment, mais d'aller notamment rejoindre des satellites, c'est ça ?
On serait sur des satellites géostationnaires et on serait à 36 000 km de la Terre.
Pour un ascenseur spatial, voilà. 36 000 km.
Ouais.
Donc ça, c'est à l'étude.
Ouais.
On verra bien.
Ouais. Mais le voyage durerait 2 semaines.
Donc là, c'était l'aspect technique qui te plaisait. Mmh. Alors, Asimov, tu l'évoquais un peu, notamment les cavernes d'acier, il y a un aspect politique, enfin, anticipation, qui est aussi un des volets de la science-fiction. Enfin, moi, personnellement, c'est celui que je préfère, mais bon. ça, qu'est-ce que tu en penses, enfin, est-ce que tu as lu d'autres auteurs sur ces volets-là ?
Dans le politique. Plus politique, pas forcément, mais je compte bien un jour m'atteler à la tâche, parce que j'ai envie de... curieux de savoir comment ça peut être traité, ce sujet-là.
D'accord. Et est-ce que tu as d'autres auteurs encore à nous recommander, justement ?
Il y a A.E. Van Vogt.
Pareil, c'est pas tout jeune.
Non,
c'est
non.
pas tout récent.
Moi, je suis de la vieille école.
C'est les années quoi, 50, 60
Oui, c'est les livres qu'on trouvait au début dans les bibliothèques municipales.
Et c'est ça aussi.
Voilà.
Et quel titre en particulier ?
Je ne sais plus le titre.
Le monde des nonas.
Et la trilogie, je crois, il y avait même.
Et là, c'est quoi ? Tu peux nous raconter l'univers
De ce que je m'en souviens, c'est... Les êtres humains doivent passer par une machine pour déterminer leur position sociale, entre guillemets.
Ah bah oui, c'est un roman social encore.
Ouais. Et le roman, le héros a un statut forcément compliqué et il va s'en suivre des péripéties... assez rocambolesque, on va dire.
D'autres encore, non ?
Philippe K. Dick.
Voilà, quand même. Je l'attendais, celui-là. Philippe K. Dick. Comment ne pas avoir lu Philippe K. Dick ? Surtout qu'il a inspiré tellement de films.
C'est impressionnant, le nombre de films.
Lesquels, par exemple ?
Blade Runner, forcément.
Voilà, déjà.
Scanner Darkly. C'est un film un peu compliqué par sa mise en scène. C'est entre le film live et le dessin animé. C'est un peu abrupt au départ pour attaquer le film, mais une fois qu'on est dedans, si on a pigé un peu le système, on plonge dedans et puis on...
Et quelle est l'histoire ?
C'est l'histoire, une histoire policière, c'est un... Il y a plusieurs histoires, mais la trame principale, c'est l'histoire d'un flic qui est infiltré dans un réseau de trafic de drogue. Et il dispose d'un dispositif de masque holographique qui permet de changer d'identité. Et ça a tendance à le perturber un petit peu.
Scanner Darkly.
Scanner Darkly.
Donc Philippe K. Dick, voilà. Qui a inspiré un film.
Voilà.
Minority Report.
Oui.
Tu l'as. Ouais. Oui. Là, on va passer. On glisse vers le cinéma alors.
Minority Report, oui, toujours un policier, toujours. Histoire d'une police prémonitoire.
Prédictive.
Prédictive qui commence à glisser dangereusement. Vers le délit d'intention.
Ouais, c'est ça. En fait, voilà. C'est des gens qui prévoient. Enfin, c'est des précogs.
Des précogs, ouais, qui prévoient des mutants. C'est ça le terme précis. Qui peuvent lire l'avenir et qui peuvent savoir si un meurtre va être commis, contre qui et par qui. Et le système est un peu bancal. Mais sans...
ça ne fonctionne pas très bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire.
Voilà, c'est ça. Il faut toujours le petit grain de sable pour perturber la situation.
Alors, en ce qui concerne le cinéma et la science-fiction, bon, là, je pense qu'il y a énormément de... Enfin, je pense que tu as beaucoup de références, mais alors je vais quand même te demander d'en choisir quelques-unes. Ça va être difficile.
C'est compliqué. Bon, il n'y a pas un film vraiment qui ressort, mais il y en a quelques-uns qui, je pense, ont un peu le même côté. C'est les films plus contemplatifs. 2001, forcément, la base.
Mais qui ne fait pas l'unanimité pour autant, justement, parce qu'il est contemplatif. C'est un film qui est difficile pour beaucoup de gens.
Et oui. Après, c'est peut-être un côté élitiste, mais justement, c'est ça. C'est que il faut se prendre par la main pour entrer dans un film. Je ne dis pas que c'est forcément évident. Mais je pense que celui-là mérite quand même quelque chose.
Oui, il faut l'avoir vu, de toute façon, pour sa culture. Mais
oui, de toute façon, même le Kubrick, déjà, il faut entrer dedans. À l'image de Full Metal Jacket, il faut y aller. Quoi.
Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace.
Interstellar.
Je suis d'accord.
Beaucoup plus récent, mais dans le même genre, c'est contemplatif à ma vision des choses.
Alors, il faut raconter l'histoire, même si ce n'est pas évident.
C'est un futur dystopique très proche.
Alors, dystopique, c'est un futur
qui part en négatif. Sucette. Voilà. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, ça part violemment en vrille. C'est le dérèglement climatique qui empêche les cultures de se faire. Il n'y a plus de maïs, il n'y a plus de blé, il n'y a plus qu'une essence de céréales qui pousse sur Terre, il y a des tempêtes de sable dans tous les sens. Il n'y a plus beaucoup de repères. Les grandes institutions commencent à battre un peu de l'aile, c'est compliqué. Et un ancien astronaute découvre un projet de recherche de planètes extraterrestres, forcément.
Habitables.
Habitables. Et là, on suit une recherche, une exploration pour retrouver la planète qu'il faut, avec des contraintes qu'on peut trouver souvent dans le cinéma qui sont vraiment franchement abordées, surtout l'histoire de l'appréhension du temps.
C'est ça. Voilà. C'est ce qui fait l'intérêt du film. Et en même temps, sa complexité. C'est une histoire qui est assez complexe.
Tout à fait.
Mais ça fonctionne parce qu'il y a aussi une histoire humaine, une relation père-fille qui est belle, qui est poétique.
À l'amour-haine, toujours.
Bien sûr. Voilà. Interstellar, donc Christopher Nolan, bien sûr. On a oublié de citer le réalisateur. Un autre
Oblivion. Il est moins connu, celui-là.
Oui.
Mais toujours pareil dans le... style contemplatif.
De qui?
Je ne sais plus.
On retrouvera, la référence. Ouais. On la mettra sur le site internet de Radio Évasion.
C'est pareil dans le futur, plus ou moins proche, 100 ans, 200 ans dans le futur. Dystopique, pareil. Là, on est passé après la fin du monde. C'est que des extraterrestres ont attaqué la Terre et on s'est défendu un peu brutalement et on a tout cassé. Voilà. Et donc, là maintenant, une colonie s'est établie sur une lune de Jupiter, si je me souviens bien.
Donc une colonie humaine, terrienne, d'accord. Oui.
Et il faut faire un peu vider les fonds de tiroirs de la Terre avant de partir. Et le héros est en charge de surveiller un peu tout ça, parce que des extraterrestres sont restés sur Terre pour empêcher le ramassage. Et forcément, il y a quelque chose qui dérape.
Forcément.
Voilà. Oblivion. Je ne vais pas spoiler parce qu'il est encore assez récent.
D'accord. Oblivion. Un autre?
Après, ce serait forcément la série Star Wars. Même s'il y a plusieurs écoles.
C'est pareil. Là, on est sur le space opera. Tu considères que ça, c'est une branche de la science-fiction?
Il y a une école de pensée.
Il y a un débat.
Il y a un débat pour dire que Star Wars, ce n'est pas de la SF, c'est du fantastique.
C'est ça.
Au
c'est
début, quand j'ai la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai tiqué un peu. Bah non, pourquoi du fantastique? Et après, quand on m'a expliqué pourquoi...
Alors pourquoi?
La force.
La force, c'est pas scientifique,
On peut pas l'expliquer.
Donc, c'est pas de la science-fiction.
C'est ça. Il y a le côté space opéra, vaisseau spatial, laser, machin, tout ça. Mais le côté la force, c'est un côté spirituel, pas forcément quantifiable, on va dire.
Trop flou pour être de la science-fiction pure. Oui, mais alors, en fait, quand on parle de science pure, mais qui débouche sur une fiction, parfois on parle de hard science-fiction.
Oui.
Là, je ne sais pas aussi où sont les frontières.
Ah, c'est oui.
C'est-à-dire que la hard science-fiction, ça serait extrêmement crédible sur un plan scientifique.
Genre Interstellar, même s'il a été un peu critiqué, mais ça reste une vision du réalisateur. Donc, ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire. Donc, un film ne sera jamais la réalité. Donc, c'est pour ça.
À propos de documentaire, d'ailleurs, est-ce que tu en aurais un ou plusieurs à recommander ? Sur la science-fiction, justement.
Sur la science-fiction, il y a un documentaire sur Dune. Moi, j'ai pas parlé.
Ah, Dune, bah oui, Dune, oh là là, on a oublié. Alors là, c'est à la fois un roman, un film. Alors, moi, je trouve que le film a un peu vieilli, franchement. Je trouve que le roman, enfin, en tout cas, le premier roman, parce que c'est une série, hein, Dune, L'auteur nous échappe. Ah zut, la Frank Herbert.
Voilà.
Raconte un peu d'une, pareil.
C'est l'histoire d'une caste dirigeante, on va dire, sur une lune qui s'appelle Arrakis, si je me souviens bien, qui est réputée dans tout l'espace, ou au moins les plusieurs systèmes solaires, pour ses épices.
C'est ça, c'est l'enjeu, ça va être un...
Voilà, c'est un peu le pétrole du roman, quoi.
Super pétrole.
Voilà.
De l'or à la fois, du pétrole. Enfin,
c'est tout. Voilà. C'est la super matière.
On a besoin d'épices, en tout cas. Voilà. On ne va pas s'en passer.
Et une lutte de pouvoir fait que l'héritier au trône de la caste dirigeante est dégagé. Un putsch fait que ses parents sont assassinés et que lui est écarté du trône. Et il est récupéré par des rebelles qui luttent contre l'exploitation de l'épice.
Et il y a un aspect religieux, en plus.
Oui.
Parce qu'il est un peu le messie, quelque part. Le héros est un peu le messie attendu par un ordre religieux. Enfin, c'est ça, en fait.
Oui. Hein,
les Bene Gesserit. Donc, c'est un livre. Ça a donné un film. Je ne sais pas ce que tu penses du film.
C'est vrai qu'il date un peu. Mais c'est ça qui est un peu embêtant de la science-fiction. C'est que ça a tendance à très mal vieillir. Quand les films sont très typés...
Les décors et les costumes, quoi.
Voilà. Déjà, pour la saga Star Wars, ils ont eu ce problème-là.
Pas tellement, je trouve, justement. Parce qu'ils sont restés assez sobres dans les décors et les... dans les premiers, la première série la plus ancienne, ils n'avaient peut-être pas assez de moyens pour faire des décors trop...
C'était quasiment du bricolage, le film. Donc,
Du coup, je trouve que ça a plutôt bien vieilli en termes d'esthétique.
Mais c'est la transition entre les trois premiers épisodes qui ont été faits après...
Là, il y avait beaucoup plus de moyens.
Ouais, avec un design... moderne, entre guillemets, on va dire, et qu'il devait faire ancien. C'est toujours compliqué de faire des préquels, comme on dit, 20 ans plus tard. Et donc, j'avais, en mémoire, l'exemple, c'est le film, les films, La machine à explorer le temps. J'en connais trois versions. Il y a une des années 50, une des années 70, et une des années, début des années 2000. Et on voit, le film suit son époque, on voit les techniques évoluer. Et les moyens, pour résumer l'histoire de Machine à explorer le temps, c'est un savant, en fin du 19e siècle, il réussit à inventer une machine à explorer le temps. Et au cours de ses aventures, il échappe à un cataclysme qui va ravager la Terre complètement, encore une fois. Et donc, c'est dans les trois films différents, c'est la façon dont la Terre est ravagée qui montre un peu les peurs de ce temps-là. Il y a un, c'est une guerre nucléaire. L'autre, c'est un séisme volcanique. Et le troisième, on a fait exploser la Lune, carrément.
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 N'ayons pas peur.
Oui.
On en est capable, ceci.
Oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que les vieux films de science-fiction peuvent vite être datés.
Mais révélateurs de certaines époques.
Voilà, et c'est ça que j'aime bien.
Et donc, on a dérivé, mais pour en revenir à ce documentaire sur Dune, de quoi s'agissait-il ?
C'était un making-of, on va dire.
Ah, d'accord. Voilà. Mais du film.
Du film.
D'accord.
Avec toutes les premières planches, pas forcément tout le tournage, mais toute la pré-production du film, des recherches, tout ça, qui était vraiment très, très intéressant.
Une série de télévision, éventuellement, ou plusieurs, à nous signaler sur...
La science-fiction.
De science-fiction et de bonne facture.
Stargate SG-1. Mais qui commence à vieillir aussi.
Qui est ancienne, qui est terminée. C'est une série qui est terminée.
Stargate Atlantis, il ne faut pas.
D'accord. Pas bon. Il ne faut pas confondre.
Ah non, ce n'est pas la même chose et c'était mal fait, à mon avis. Les décors font carton-pâte, je ne sais pas. Et après, il y a eu une autre série, Stargate, je ne sais plus.
Une autre déclinaison.
Oui, qui était une sorte de spin-off, qui était à mon goût très bien faite, très sombre, mais bien, et qui a duré une saison. Donc ça n'a pas marché. Et après Stargate, ce serait Battlestar Galactica.
C'est une série ?
Oui, une série qui a été refaite. La première version date des années 70. Donc là, on arrive dans le kitschissime proche. Mais qui, moi, à l'époque, moi, j'avais totalement aimé.
Et c'est de l'exploration spatiale, dans tous les cas ?
Non, c'est encore une dystopie.
Encore, décidément. Ouais,
malheureusement. Là, c'est la Terre a été détruite par les robots que les humains ont créés.
Ça nous ressemble un peu à Terminator, que nous n'avons pas cité, mais
qui pourrait bien être.
Une trilogie science-fiction qui pourrait bien aller.
Et c'est une errance, un peu comme l'Exode. Plein de vaisseaux spatiaux qui forment une colonie qui essaye d'échapper aux robots qui veulent forcément les exterminer. Et donc, il y a eu une première série dans les années 70 et ils en ont refait une au début des années 2000, mais qui était clairement marquée post 11 septembre.
Ah, bah c'est ça. Voilà. Encore.
Et là, on y était totalement. L'ambiance était sombre, c'était presque glauque. C'était pas drôle du tout, mais c'était très, très bien fait.
Bon, bah on mettra les références aussi. Ouais. Un jeu vidéo, peut-être ? Parce qu'il y a tellement de choses, il y a de la bande dessinée qu'on n'a pas évoquée, mais bon.
Valérian et Laureline.
D'accord, c'est noté. Ça, c'est pour la bande dessinée, pas pour le film.
Le film, c'est encore
un débat. On en discutera une autre fois. Et un jeu vidéo, éventuellement.
Un jeu vidéo, c'est un jeu qui est vieux aussi, parce que je suis plutôt jeune non plus. Le jeu Halo.
Halo.
Voilà, c'est toujours pareil. La Terre, extraterrestre, attaque, on cherche un refuge. Et là, le héros, qui est un super soldat, arrive sur un monde anneau, qui flotte dans l'espace.
Ah, d'accord.
Le décor...
Un halo, H-A-L-O.
Voilà.
D'accord.
Et il y a eu 4 ou 5 épisodes de plus ou moins bonne qualité. Et ça décrit un univers un poil répétitif des fois, mais quand même assez varié.
C'était pour l'exemple de jeux vidéo. Un tout petit mot de cette émission que tu vas nous proposer. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans ?
Je vais tenter d'expliquer, avec des grandes guillemets, la science-fiction à ceux qui la connaissent ou pas, donner envie d'aimer la science-fiction, sans que j'oblige à rien, de présenter les divers aspects de la science-fiction. Comme on disait au début de l'interview, c'était de trouver des biais d'entrée pour aimer le sujet.
Rémi Toularastel sur Radio Évasion. Merci, Rémi.
Extra Muros.
Radio Évasion.